décidé d'ouvrir une partie de ses eaux à d'éventuelles activités. Le gouvernement travailliste a accepté de ne pas lancer le premier appel d'offres au cours de la présente législature. 18h10 à Paris, merci de nous écouter.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Le défi 24 heures en GT Téléthon, un événement sportif et solidaire. Au profit de l'AFM Téléthon, pendant 24 heures, faisons le plus de kilomètres possible. 1 km, 10 km ou plus, peu importe. Chaque pas compte. 63 137, c'est le nombre de kilomètres parcourus en 2024. Êtes-vous prêt à battre ce record en 2025? Rendez-vous sur défi24h.fr pour vous inscrire et rejoindre le défi 24 heures en GT Téléthon.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Et le jingle a tout faux puisque c'est toi, Sidonie, qui présente l'émission ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, et oui, du coup vous êtes bien sur Topette, malgré que ça ne soit pas Pierre Benoît qui présente ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, il est quand même présent pour nous parler après de notre invitée, Catherine Allereau, et des Galeries Recyclettes, ce grand marché annuel solidaire sur la seconde main. Mais ce n'est pas tout, nous écouterons la Madeleine du Graal, la Drôle de Vie, et pour finir, Choupi Matoudi, la chronique qui défend la cause animale. Restez à l'écoute sur Topette pour une soirée diverse et enrichissante.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Petit rappel pour les événements à venir. Le défi 24 heures Angers Téléthon, un événement sportif et solidaire au profit de l'AFM Téléthon, aura lieu du vendredi 5 décembre à 16h jusqu'au samedi 6 à 16h à l'étang Saint-Nicolas à Angers. Il est même possible de le faire depuis chez vous si vous ne pouvez pas venir, mais chaque pas compte. Pour vous inscrire et pour avoir plus d'informations, allez sur le site défi24h.fr. Pour ceux ayant une âme poète, aussi, le mercredi 10 décembre, le Slam Poésie Club ouvre sa scène. Tout le monde peut s'inscrire, venez donc en spectateur ou en grand poète à 20h au Welch, 25 place Louis Imbache à Angers. Il y a aussi un marché de Noël proposé par MJ Entreprendre le dimanche 24 décembre de 10h à 18h sur la place Robert Schumann à Montreuil-Junier. La magie de Noël sera en place avec de nombreux exposants et restaurations. Peut-être même que vous aurez la chance d'y voir le Père Noël. Le Sésame Angers propose un spectacle de Noël. Le Jola Circus, les étoiles de Noël, est un spectacle haut en couleur et en émotion pour petits et grands. Le samedi 13 et dimanche 14 décembre à la salle Athlétis au Pont-de-Cé. Radio G offre 2 places. Il suffit d'envoyer votre prénom et téléphone en message sur nos réseaux ou à contact@radio-g.fr. Beaucoup de choses à noter dans votre agenda, nous savons. Mais ce n'est pas fini, car il y a aussi les Galeries Recyclettes que nous allons découvrir tout de suite avec Pierre Benoît.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et surtout avec notre invité, merci Sidonie, puisqu'on est avec Catherine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Catherine Allereau, tu es responsable communication et événementiel à l'IRESA. Alors l'IRESA, c'est l'interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou, il me semble, c'est ça le sigle.
Tout à fait.
Voilà, qui organise les Galeries Recyclettes, 4e édition.
9e
édition, déjà que le temps passe vite, ce sera le 7 décembre et ce sera aussi à la salle Athlétis comme le spectacle de Sésame Angers. On était avec les invités la semaine dernière, mais ça c'est un autre sujet. Bref, la salle Athlétis au Pont-de-Cé le 7 décembre pour Galeries Recyclettes, un petit clin d'œil en plus dans le nom, tu pourras nous expliquer ça dans quelques instants, Catherine. Mais avant tout ça, bien évidemment c'est pas ta spécialité au sein de l'IRESA, mais certainement que tu as quand même de quoi nous définir très simplement ce qu'est l'économie circulaire, parce que ça tourne un petit peu autour de ça, tout ce qui concerne l'IRESA et puis les Galeries Recyclettes. L'idée, c'est de, plutôt que de jeter, se dire, bon, bah voilà, on va réinjecter tout ça au travers des différentes associations et structures qui proposent d'éviter de gaspiller, soit en proposant des choses qui ne produisent pas de déchets, soit en réutilisant des choses qui avaient vocation à être jetées, comme des vieux pulls, de vieux appareils. On écoutait le Tamagotchi tout à l'heure, par exemple. Bah, ça peut peut-être encore servir à l'occasion de Noël, qui sait. C'est ça l'économie circulaire, Catherine ?
Alors l'économie circulaire, on pourrait dire que ça permet de remettre sur le marché ce qu'on pourrait considérer comme un déchet.
L'exemple qu'on peut citer, qui est un peu en décalage avec les galeries recyclettes, mais qui est intéressant, c'est aujourd'hui ce qu'on développe de plus en plus. Quand on va faire des travaux sur un bâtiment, il y a des choses qu'on va retirer et ça peut être des fenêtres, des poutres, de la robinetterie. Et plutôt que de dire, bon, bah, en fait, c'est un déchet, je n'en ai plus besoin, je mets ça à la déchetterie, on peut remettre ça dans le circuit, ça peut être réparé et réutilisé dans le cadre de d'autres travaux, d'autres installations. Donc l'économie circulaire, en fait, c'est vraiment dire, voilà, ce qui était initialement pensé comme un déchet peut redevenir un objet de consommation, d'utilisation. Et ça peut prendre plein de formes différentes dans des industries. Ça peut être ce qui est considéré comme un sous-produit qui va devenir un produit qui va peut-être intéresser une industrie qui est juste à côté. Donc il y a plein de manières de parler d'économie circulaire et évidemment pour ce qui nous intéresse, pour les galeries recyclettes, c'est comment on réutilise des choses qu'on a déjà utilisées, que ce soit effectivement du textile, de l'électroménager, etc. Mais aussi comment des créateurs se servent de ce qui est considéré comme du surplus, de la matière qui a vocation à être jetée pour refaire des objets, de la déco.
Pour donner encore plus savoir la définition que tu nous donnes, Catherine, en gros, l'économie, le paradigme, l'idée dominante aujourd'hui dans notre économie, c'est de dire on produit, les gens achètent, on consomme et puis après, en bout de chaîne, on jette. J'ai en tête la prime à la casse des voitures en 2009, par exemple, les voitures, on disait aux gens, donnez-nous votre voiture, on la met à la casse et ça vous fait une prime pour acheter une nouvelle voiture. Par contre, l'ancienne voiture, qu'elle fonctionne ou pas, elle était écrasée et puis finalement elle ne resservait plus du tout. Donc l'économie circulaire, ce serait plutôt de se dire à ce moment-là, on va réinjecter de l'autre côté et se dire ça peut encore servir à la consommation, aux biens et tout ça. Sidonie, je me tourne vers toi, ça te parle ou pas ce terme d'économie circulaire ?
Bah, vite fait, parce que j'avais vu un peu au lycée, malgré tout, on avait eu quelques cours là-dessus. Mais c'est sûr que là, je vais en apprendre davantage en faisant des petites recherches et en allant aux galeries recyclettes aussi.
Exactement, les galeries recyclettes.
Avec plaisir.
Galeries recyclettes dont on va parler dans quelques instants vraiment avec toi, Catherine. Juste avant, pour rester sur les termes, définition, joie, réemploi, recyclage, zéro déchet, définition simple, réemploi, recyclage, c'est la même idée en fait.
Alors, pas tout à fait. Le réemploi, c'est un même objet qui va... par exemple, donc on va prendre l'exemple du textile. Demain vous mettez un pull, vous donnez un pull à une ressourcerie, le pull est en bon état, il va être revendu, c'est du réemploi. Demain vous donnez un pull, le pull est en mauvais état, il se peut que ce pull là il puisse être réemployé pour autre chose. Par exemple, il va être délité, enfin mis en petits morceaux pour faire potentiellement de l'isolant ou enfin voilà, servir en fait la fibre textile va pouvoir être réutilisée pour devenir autre chose. Donc voilà, le recyclage c'est ça. Et zéro déchet, c'est vraiment, enfin, c'est hyper important de penser toute la vie de l'objet, tout son cycle. Et le zéro déchet, c'est comment on fait en sorte de pas produire du déchet quand on achète. Voilà, l'exemple le plus connu, c'est l'achat en vrac. Éviter tous les emballages et les contenants qui vont finir à la poubelle très rapidement. Ça, c'est déjà le premier geste qui peut être fait, c'est comment on fait en sorte de pas produire du déchet, à commencer par l'emballage. Et les cadeaux de Noël, c'est quoi ? C'est du papier cadeau qui a une durée de vie qui est ultra rapide. Là, on produit du déchet. On peut faire autrement.
En réutilisant les journaux, par exemple.
Ouais, complètement. Il y en a qui font des furoshiki. J'arrive jamais à me rappeler de comment ça se prononce.
Décris-nous, parce que comme ça, on aura la...
C'est des pliages. En fait, c'est du tissu qu'on utilise et qu'on réutilise. Alors, l'intérêt, c'est quand même de soit récupérer quand on a donné le cadeau, soit que ce soit réutilisé par la personne qui reçoit le cadeau. C'est des pliages avec du tissu. Mais il y a aussi des gens qui ont quelques talents de couture qui arrivent très bien à faire des petites pochettes en tissu qui sont réutilisables. Voilà.
Ou alors recycler d'un pull qui n'avait plus vocation à être porté parce qu'il était troué, comme tu disais.
Un pull peut devenir effectivement un emballage cadeau, pourquoi pas.
Voilà, qui contient peut-être un pull lui-même,
voilà.
Qui
est en réemploi. La boucle est bouclée.
Alors justement, l'économie circulaire, histoire de boucler pour de bon, on est sur des phénomènes plutôt anecdotiques, plutôt qui se développent de plus en plus, ou alors on reste quand même écrasé si on prend à l'échelle mondiale. On sait qu'il y a la Chine qui produit énormément, qui n'est pas du tout dans une optique d'économie circulaire, on le sait bien, et la tendance n'a pas l'air d'être vers ça, mais est-ce qu'on a quand même suffisamment d'initiatives, est-ce qu'on a un développement assez prononcé, par exemple ici en Anjou, pour ce qui concerne Mireza?
Alors nous, on suit des initiatives qui sont évidemment vertueuses, qui vont dans le sens d'une économie circulaire, plus durable, aussi parce qu'elles créent des emplois. Ce qui est important de rappeler, c'est que quand on parle de réemploi d'économie circulaire, on parle d'emploi, c'est-à-dire des gens qui vont être dans des structures donc d'économie sociale et solidaire, des personnes en insertion, des personnes qui sont accompagnées dans le retour vers l'emploi et qui vont trier, réparer. Je pense notamment par exemple l'atelier du bocage qui sera présent, qui répare et qui remet en vente des objets numériques comme des téléphones ou des ordinateurs. Ça, c'est de l'emploi non délocalisable. Parce que en fait, c'est des gens qui en local récupèrent tous ces matériaux-là, toute cette matière, et qui la retraitent et qui font en sorte qu'elle puisse être revendue en local. Nous on est au contact de ces initiatives-là. Maintenant, c'est sûr que on en a parlé, reparlé. L'actualité de Chine, par exemple, ça vient écraser un peu tout ça, malheureusement, et on est face à une logique économique qui est, enfin tu le rappelais très bien, la prime à la casse, c'est de dire il faut continuer de faire marcher le marché automobile, donc on va encourager les gens à détruire leur voiture parce que un, potentiellement elles sont polluantes, et deux, on veut que l'industrie automobile puisse continuer à vendre des voitures. C'est complètement l'effet pervers du truc, mais nous on a envie de croire en tout cas qu'un autre modèle est possible.
Voilà, sans remettre en question l'utilisation finalement, est-ce qu'on a besoin d'une voiture ? Est-ce qu'on pourrait pas faire du transport en commun ou quoi ? Ou voir autrement ? Mais ça, ça demande
c'est un vrai sujet.
Un travail intellectuel, individuel et collectif qui...
Ouais, et porté par les services publics aussi.
En plus, c'est un autre débat. En tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas la spécialité du développement d'économie circulaire au sein de l'IRESA, qui fait la communication et l'événementiel, tu nous expliques plutôt bien les choses, je trouve, Catherine.
Tant mieux.
On va faire une petite pause, je crois, avant de parler
tout
des galeries recyclées.
Nous allons faire
Denis.
Une petite pause pour reprendre de plus belle, bien sûr. Tout de suite, écoutons la Madeleine du Graal.
Retrouvons tous nos désirs, plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal, c'est la Madeleine du Graal.
C'est la Madeleine du Graal.
Chers auditeurs, bienvenue dans la Madeleine du Graal. Ah, aujourd'hui, je vous emmène dans une capsule temporelle, vers cette époque bénie où nos plus grandes responsabilités consistaient à nourrir un animal virtuel pixelisé. Le Tamagotchi, ce petit œuf en plastique qui a colonisé nos poches et nos cartables en 1996. Qui aurait cru qu'un jour, on pleurerait sincèrement la mort d'un animal constitué de quelques pixels noirs sur un écran LCD. Créé par la société japonaise Bandai, le Tamagotchi, contraction de Tamago, œuf et watch, montre, a débarqué comme un ovni dans nos vies. L'idée, simple mais révolutionnaire, vous adoptiez une créature virtuelle et deviez vous en occuper. La nourrir, la nettoyer, jouer avec elle, la soigner. Une parentalité simulée pour nous préparer à la vraie vie. Sauf que personne ne vous signalait à la DAS si votre Tamagotchi mourait tous les 3 jours. Et parlons-en de ces moments de drame. Qui n'a jamais ressenti cette panique viscérale en retrouvant son Tamagotchi après les cours, seulement pour découvrir l'écran funeste affichant une petite pierre tombale? Ah, certains d'entre nous amenaient même leurs précieux compagnons aux toilettes, première addiction technologique de notre génération. Les professeurs, eux, ont développé une allergie instantanée à ces petits œufs électroniques. Combien de confiscations, combien de Tamagotchi ont péri dans les tiroirs des bureaux des enseignants. Ah, une hécatombe silencieuse. Et ce son, ce bip-bip caractéristique qui nous réveillait en pleine nuit parce que notre créature avait faim. Ah, nos parents adoraient ça. Vous vous en souvenez ? À l'époque où le téléphone portable n'était pas encore notre extension naturelle, le Tamagotchi était notre première leçon sur la tyrannie de la notification. Mais qu'est devenu notre ami pixelisé aujourd'hui ? Après avoir vendu plus de 82 millions d'unités dans le monde, le Tamagotchi a connu plusieurs renaissances. La dernière version dispose d'un écran couleur et peut même se connecter à une application smartphone. Oh, quelle ironie! Notre premier animal virtuel qui avait besoin de toute notre attention est maintenant relégué au rang d'application parmi des centaines d'autres sur nos téléphones. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par des notifications bien plus sophistiquées, le charme simple du Tamagotchi continue pourtant d'opérer. C'est notre Madeleine de Proust digitale. Ce petit œuf nous rappelle une époque où prendre soin d'un animal virtuel était notre plus grande préoccupation. Ah, alors, chers auditeurs, si vous retrouvez un jour votre vieux Tamagotchi au fond d'un carton dans les greniers de vos parents, n'hésitez pas à lui offrir une pile neuve. Ces quelques pixels vous transporteront instantanément à l'époque où votre plus grande responsabilité tenait dans le creux de votre main.
Dans nos poches, un œuf éclatant. Un pixel, petit compagnon charmant. Nuit et jour, il faut le chérir. Un lien fragile qu'on doit nourrir. Daron, daronne, voyage spirale. Madeleine d'antan, trésor digital. Les bips résonnent, son charme vital. Un souvenir doux, un bien ancestral.
C'était la Madeleine du Graal et à bientôt pour un nouveau voyage dans vos souvenirs.
Retrouvons tous nos désirs, plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal, c'est la Madeleine du Graal.
Que de nostalgie pour ce petit objet. Toi, Pierre-Benoît, tu avais un Tamagotchi ou pas quand tu étais plus jeune?
Oh non, 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 ça m'intéressait pas.
Et toi, du coup, Catherine, t'en avais un ou...
Je suis trop vieille.
Ah, bon, bah, bon, c'est pas les bonnes, voilà. Moi, j'étais pareil, peut-être un petit peu.
Bon, du coup, revenons au sujet principal, les galeries recyclettes avec, du coup, toi, Pierre-Benoît, et toi, Catherine.
Topette, sur Radio G.
Effectivement, et toi, t'en as eu un ou pas, Tamagotchi, quand même?
Bah, des nouveaux modèles un peu différents, mais oui.
D'accord.
Voilà.
Ok, bah tu nous feras un retour d'expérience éventuellement un jour sur cette utilisation du Tamagotchi. J'ai jamais trop compris moi comment ça marchait. Mais bon, effectivement, c'est pas notre sujet de la soirée, donc on va revenir sur les galeries recyclettes proposées par l'IRESA. Et pour en parler, on est avec toi Catherine Alraud qui travaille à l'IRESA. Tu es responsable communication et événementiel. Ça tombe bien parce que là, tu communiques sur un événement que tu as certainement participé à construire, les galeries recyclettes, 9e édition, donc ça fait 9 ans. Enfin, peut-être pas, parce qu'il y a eu la période Covid qui Exactement. A dû faire sauter. Ça fait 10 ans, finalement.
Ouais, je crois qu'on est à peu près là-dessus, ouais.
Voilà, ça, c'est dommage, le Covid, il a tout décalé.
Ah oui, les anniversaires, c'est foutu. Hein.
C'est fichu. Ou alors, les événements post-Covid, c'est bon, ils sont tranquilles. C'est encore un autre sujet. Les galeries recyclettes, le 7 décembre, à la salle Athlétis au pont de C. Alors, il y a un petit clin d'œil. Déjà, dans le nom qui a été choisi, je crois qu'il y a un peu un contre-pied ou un pied de nez, comme on dit, par rapport à d'autres galeries, non? C'est pas... Oui. J'ai cru entendre ça, Catherine.
Oui, tout à fait. Par rapport à... On peut les citer, je pense, aux Galeries Lafayette. D'ailleurs, le visuel avec cette grande porte ouverte, lumineuse, qui symbolise le temple ou le paradis des achats. Mais finalement, nous, on propose un autre temple ou un autre paradis des achats, plus durable, éthique et responsable. Mais oui, le clin d'œil est clairement assumé.
En fait, c'est de dire consommer, consommer mieux, consommer différemment, consommer responsable. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces galeries recyclettes quand on passe les portes de la salle Athlétis, justement? Une foultitude de stands, d'ateliers, de propositions, d'offres. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Alors déjà, on trouve plein d'exposants souriants, chaleureux et heureux d'être là. Je pense que c'est un événement dans lequel on se sent bien, qui est très convivial. On a 42 exposants cette année qui représentent des acteurs du réemploi, donc des ressourceries. Il y a des artisans et créateurs, et puis il y a des associations. En fait, on fait le choix de parler de la consommation au sens large, hein, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, en proposant évidemment aux gens de faire leur marché de Noël, mais autrement. Donc c'est quand même la chance et l'opportunité unique dans le département d'avoir cette concentration de stands qui vont vous permettre vraiment de vous faire plaisir, de faire vos achats de Noël, de vous équiper, etc. Donc vous pouvez acheter auprès d'acteurs du réemploi et de d'artisans et de créateurs, mais vous pouvez aussi discuter des questions de consommation. C'est pour ça qu'on a fait le choix aussi qu'il y ait des associations qui soient là pour parler de réparation, comment on répare un objet, réduction des déchets, mais aussi parler de monnaie locale. Il y a même un stand, moi ça me fait rire à chaque fois, mais c'est un vrai sujet qui s'appelle, il y a un stand de Homo sapiens qui parle de une autre façon d'être enterré qui s'appelle la terramation, puisqu'on sait que malheureusement c'est très consommateur d'énergie.
Alors, déramation, juste pour préciser, du coup, c'est de mettre nos corps en bio, en biodégradation, en fait.
L'humilisation, ouais, c'est ça, exactement. C'est
la mais une fois qu'on est mort. Hein.
Le compost, mais avec un humain à l'intérieur.
Le compost, c'est ça, exactement. Bon, ben, on avait reçu, d'ailleurs, je crois, l'association ici, dans le département, qu'on avait parlé. On vous renverra vers le podcast fouillé sur le site internet.
Ouais, franchement, c'est hyper. Enfin, moi, je trouve ça fascinant et hyper intéressant.
Voilà, un sujet. Au moins, vous vous ferez un avis sur la question. Les galeries recyclettes, Catherine, à la fois, ça met en avant du coup tous les acteurs, actrices de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire aussi. Et en même temps, ça amène du public peut-être à être, c'est pas du prosélytisme, mais du coup, ça permet de convaincre, d'infléchir aussi sur les comportements. Ça aussi, cette ambition-là, les galeries recyclettes ?
Ouais, complètement. On fait en sorte de faciliter l'accès à cette autre forme de consommer, de réunir voilà, une variété de produits. Pour faciliter l'achat ce jour-là pour le public, parce qu'on sait que c'est intéressant, il y a des gens, enfin le public qui vient c'est très varié, il y a des gens qui sont là parce que ils ont bah voilà un pouvoir d'achat qui est pas très élevé, mais il y a aussi des gens qui viennent complètement par militantisme. Tous ces gens-là, ils se retrouvent le jour J pour faire ses achats et participer aux guerrières cyclettes. Et puis faut le dire, c'est aussi pour nous, l'IRESA, en tant que réseau, avant tout un événement de soutien à nos adhérents qui relève, vous l'avez dit, de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est un moment pour eux où ils vont pouvoir vendre. Et c'est important dans un contexte où pour eux, voilà, ils ont des baisses de subventions, des baisses d'aides, une hausse des demandes, des besoins. Voilà, on est là aussi pour les soutenir et cet événement, il y participe pleinement.
Alors, je me tourne vers Sidonie, qui fait partie de la Gen Z, qui a pour caractéristique à la fois la volonté de consommation en illimité et en même temps de consommer éthique. Ce type d'événement, quel regard tu avais l'occasion de chercher des informations pour un flash info, je crois, Sidonie, Galerie Recyclette.
C'est vrai. Après, c'est un sujet qui est quand même assez subjectif à chacun, mais je trouve qu'on est plutôt une génération quand même assez touchée par ce genre d'événement. On est quand même plus tourné vers le futur et sur tout ce qui est écologique, tout ça, sur le bien de la planète et des achats. Après, oui, il y a une grande partie qui est là aussi pour acheter tout ce qui lui plaît, tout ce qu'il veut à pas cher. Mais là, du coup, c'est vrai que ce genre d'événement, c'est vraiment touchant, je pense, pour notre génération. Et il y aura de plus en plus de public qui va venir jeune, du coup, j'espère.
Justement, Catherine, tu parlais des publics. Alors, les publics qui sont militants, les personnes qui sont déjà militantes, les personnes qui sont contraintes économiquement à ce type de consommation. Est-ce que toi tu vois, est-ce que vous voyez des jeunes aux galeries recyclettes? Est-ce qu'il y a, vous sentez qu'il y a un public qui est ni dans une des deux cases, qui semble un petit peu plus intéressé ou malheureusement pas?
C'est très diversifié, le public des galeries recyclettes. Il y a des gens qui viennent en famille avec les enfants, parce qu'il faut savoir que c'est gratuit pour les moins de 18. Voilà, ça c'est un vrai atout pour que les jeunes viennent. Ouais, on voit. Alors, je vais pas dire que les jeunes représentent la majorité de notre public, hein, mais il y en a. Il y en a, et en plus cette année, on a un partenariat avec la Jeune Chambre économique, justement pour faire venir encore plus de jeunes. J'ai l'impression d'être une vieille en parlant comme ça, mais bon. Donc, il y aura un défilé de mode 100% réemploi. Va y avoir un blind test en mode 100% réemploi, reprise. Enfin voilà. On fait en sorte aussi de rendre cet événement plus accessible, plus lisible, plus séduisant pour les jeunes. On voit plein de jeunes qui s'habillent 100% vintage et qui ont des looks incroyables. Donc on peut être stylé avec des fringues de seconde main. Clairement, on peut se faire un super style. Donc aujourd'hui, s'il s'agit de s'exprimer à travers ses vêtements, c'est possible même en réemploi.
L'économie circulaire, sociale et solidaire comme marqueur de groupes, de communautés qui peuvent justement être intéressants pour les jeunes générations, effectivement. Tu restes avec nous, Catherine, on continue à en parler. Les infos pratiques aussi, les dernières choses qui seraient importantes d'évoquer concernant les galeries recyclettes. Mais avant tout ça, Sidonie, que faisons-nous ?
On va faire une petite pause et nous allons surtout écouter La Drôle de Vie.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
L'équipe de La Drôle de Vie vous propose une chronique dédiée au cinéma d'auteur, ou cinéma d'art et essai, un genre où l'action et le divertissement sont totalement absents, laissant toute la place au tourment psychologique des personnages et au dialogue interminablement philosophique. Voici un petit exemple de scène typique de ce genre de film.
Tu crois que le vent, c'est le souffle de la vie ?
Non, c'est juste le vent.
T'as pété ?
Non, c'est juste le vent.
Ah, d'accord. Et si le vent n'était pas le vent?
J'ai envie d'un yaourt.
Dans ce type de film, toute émotion est absente. Les personnages sont de véritables coquilles vides.
Pourquoi tu pars?
Parce que rester, c'est déjà partir.
Et partir, c'est déjà rester.
Adieu.
Ne claque pas la porte, sinon le décor va... J'ai envie d'un yaourt.
Dans le cinéma d'auteur, on met souvent l'accent sur le son, et ce même pour illustrer des actions banales dans une scène du quotidien. Le résultat est un peu exagéré.
Bonjour, tu prends du café?
Oui, merci.
Je te sers.
Pas trop, pas trop. Merci. C'est bon, là. Marie, j'en ai assez. Tu peux arrêter, Marie. J'en ai trop, là. Marie, c'est bon. Oh!
Tu veux du sucre?
Qu'est-ce que le sucre, sinon une illusion de douceur dans un monde amer?
T'en veux, oui ou merde?
Oui, juste un, s'il te plaît.
Tiens.
Je te remercie.
Tu as des nouvelles de ton travail?
Oui, enfin, pas grand-chose. Ils veulent que je fasse un rapport.
Encore un rapport?
Oui, encore. Arrête de soupirer comme ça.
Je soupire pas tant que ça.
Ah, mes tartines sont prêtes.
Tiens, les voilà.
Bien grillées comme je les aime. On va tartiner ça avec un peu de beurre. Voilà. Tu sais,
je me demande si on ne devrait pas adopter un chat.
Un chat? Pourquoi faire?
Bah, pour mettre un peu de vie dans cet appartement.
Quoi?
On va mettre un peu de vie dans l'appartement.
Ah bon? Bon, ça y est, t'as fini?
Oui, je vais aller m'asseoir un peu dans le salon. Ah. Oh, on a vraiment bien fait d'acheter ce nouveau canapé en cuir.
Ah oui, il te plaît?
Ah ouais, ouais. Tiens, viens t'asseoir.
Si tu veux. Ah oui, il est très agréable.
Vas-y, n'hésite pas, viens t'installer confortablement.
D'accord.
Ça va, l'ingé son? On entend bien le bruit du cuir, là?
Ouais, ouais, c'est parfait.
Et dans certaines scènes qui se veulent importantes, il arrive même que la musique soit tellement mal mixée qu'on n'entende même plus les dialogues.
Cette fois, c'est la fin, Paul.
Oh non, Augustine.
Marie.
Marie, pardon.
Je pars.
Attends, j'ai quelque chose d'important à te dire avant que tu partes.
Oui?
Tu vois, je me rends compte avec le temps que...
Revenons avec notre invité et découvrons-en encore plus sur cet événement.
Oui, les galeries recyclettes, exactement le 7 décembre, Sidonie à la salle Athlétis au Pont de C. On en parle toujours avec toi Catherine. Catherine Alro, responsable communication et événementiel à l'IRESA qui organise du coup ces galeries recyclettes. Alors on en a parlé, tu nous avais parlé de tous les stands, l'idée de soutenir aussi les adhérents et adhérentes au réseau et de bah voilà de d'offrir un événement pour les personnes qui sont convaincues par la chose ou alors qui sont dans le besoin de profiter de cette filière, de cette économie circulaire pour pouvoir s'offrir des cadeaux à l'approche de Noël. C'est un petit peu ça l'idée, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oublié de préciser qui sont importantes de comprendre, Catherine, à propos des galeries recyclettes aussi?
Je crois qu'on a déjà un peu dit les grands messages, que c'est un événement partenarial dans lequel ça peut être intéressant de le préciser. Si vous avez des lunettes ou des appareils auditifs qui dorment dans vos tiroirs, vous pouvez les amener le jour des galeries recyclettes, puisqu'on a un stand qui est tenu par Harmonie Mutuelle qui va recueillir tout ça, parce que elles peuvent être recyclées ou réemployées une fois qu'elles sont réparées. N'hésitez pas à venir parce que moi la première, hein, plein de paires de lunettes qui dorment dans un fond de tiroir et qui peuvent du coup resservir.
Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais aussi l'accès à la santé d'une certaine façon, la mutuelle et tout. Donc on touche vraiment tous les domaines de la vie, Catherine.
De la consommation, ouais, tout à fait.
De la consommation même contrainte. Parce que oui. Du coup, on ne choisit pas forcément d'avoir des lunettes.
Non, je te le confirme.
C'est pas forcément un luxe. Les galeries recyclettes, alors toutes les informations, on peut déjà les retrouver sur le site internet de l'IRESA. On tape galeries recyclettes et on tombe directement dessus.
C'est ça, alors iresa.org, galerie/galerie recyclette. On peut notamment sur notre site prendre des billets en pré-vente pour tous les fans des bonnes affaires, les gens qui sont au taquet, on vous invite vraiment à prendre votre billet dès maintenant, puisque dimanche, si vous venez à l'ouverture des portes ou un peu avant, on peut scanner le billet en avance et vous permettre d'accéder tout de suite au stand pour aller faire la course et la chasse aux bonnes affaires.
Parce que ça, c'est du coup, faut réserver avant,
ouais.
C'est payant. L'entrée est gratuite.
L'entrée n'est pas gratuite.
Pas gratuite.
L'entrée, c'est 2 euros. Faut savoir, on est une association, on a des financements hein, pour les guerrières cyclettes, mais ça nous permet pas de boucler le budget. Et ça, il faut le dire. Et du coup, la billetterie, même si c'est à partir de 2 euros, ça nous permet en fait de financer l'événement et de continuer à le pérenniser d'une année sur l'autre. Donc, on incite les gens à mettre 2 euros, voire pour certains, s'ils le peuvent, un peu plus. Pour nous aider.
Et justement, puisque tu parles de nous, l'IRESA, l'occasion de reparler un petit peu de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous proposez, de pourquoi vous existez. Je le disais tout à l'heure, l'inter-réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. On va peut-être pas refaire toutes les définitions, économie sociale et solidaire, on voit déjà au travers le terme. L'IRESA, ça sert à quoi? C'est quoi vos missions finalement au quotidien, au-delà des galeries recyclettes, Catherine?
Alors l'IRESA, il a 20 ans de réseau. Donc on regroupe à peu près 200 adhérents, associations, coopératives, fondations mutuelles, Société commerciale de l'économie sociale et solidaire. Donc avant tout, c'est un réseau qui regroupe des structures de l'économie sociale et solidaire, qui fait en sorte de les soutenir, qui les met en lien pour développer des actions ensemble, pour se soutenir. Et puis, donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'on va plutôt accompagner des gens comme toi, qui veulent demain se lancer dans un projet d'économie sociale et solidaire, qui veulent créer leur emploi, qui veulent être utiles sur leur territoire. On a des programmes d'accompagnement pour permettre de passer de l'idée au projet, et du projet à vraiment sa concrétisation. Et on fait en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions à travers des accompagnements collectifs.
Alors toi, Catherine, tu travailles là-bas, on va s'intéresser un petit peu à toi plus personnellement, si tu veux bien. Tu travailles là-bas, en travaillant là-bas, j'imagine, à l'IRESA, c'est pas un travail juste économique, c'est qu'on a aussi des valeurs, on a un petit peu de militantisme en soi, j'imagine. Est-ce que toi, c'est le cas? Est-ce que tu le fais pour des raisons, ou est-ce qu'il y a un sens vraiment aussi, au-delà du fait que tu fasses de la communication et de l'événement?
Alors, moi, j'ai toujours cherché à ce que la communication ait du sens. C'est mon métier depuis déjà quelques années, et j'ai toujours eu besoin d'y mettre du sens. Donc, ça a été pendant près de 10 ans plus de 10 ans sur l'environnement, la biodiversité. J'ai travaillé aussi en fonction publique sur les questions de solidarité. Donc là, ça a vraiment du sens aussi. L'économie sociale et solidaire, c'est au service de l'intérêt général, c'est au service du plus grand nombre. Moi, c'est ce qui me mobilise, c'est ce qui me motive. C'est aussi ce qui nous permet de faire beaucoup de choses avec peu, d'être dans l'adaptabilité et d'être au plus près des besoins. C'est une communication du vrai, de l'authenticité. Et moi, c'est ce qui me touche, en fait, dans mon métier. C'est ce qui fait que je suis ravie, mais vraiment, de travailler à l'IRESA.
Tu y trouves du sens? Est-ce que tu sens l'utilité de tout ça, de toute ton activité? Est-ce que tu sens que ça, en face, ça porte ses fruits? Est-ce que tu vois aussi la bonne réception auprès des personnes avec qui tu as affaire?
Oui, je pense que on a eu l'occasion de l'entendre à plusieurs reprises, et c'est vraiment très très nourrissant. Des directeurs ou responsables de structures qui nous disent que quand ils viennent à l'IRESA, ça leur fait du bien, ça les rebooste. Dans des contextes qu'on a pu évoquer par ailleurs qui peuvent être compliqués, l'IRESA, c'est un lieu de ressources, c'est un lieu dans lequel on se sent bien, on est accompagné. Il y a une vraie philosophie autour de l'IRESA, de coopération, de faire ensemble, et on crée les conditions pour qu'il se passe des choses chouettes ensemble. Et ça change tout. Donc on a des espaces de respiration, de coopération, de construction. Et c'est ce qui fait toute la richesse de notre réseau et de ce qu'on est, nous, IRESA.
Alors, un réseau qui n'a pas forcément pignon sur rue, l'IRESA n'a pas forcément pignon sur rue, comment ça se passe si on veut en savoir davantage, vous découvrir, ou alors rejoindre justement les dispositifs d'accompagnement si d'un coup on a une idée? Parce que des fois, on a l'idée, on n'a pas les mots, on ne sait pas encore qu'il y a l'économie sociale, solidaire, on veut du sens, mais on ne sait pas qu'il y a déjà des circuits qui existent.
Ouais, alors on peut aller sur nos réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram pour nous suivre, et sur notre site internet évidemment. Le mieux, c'est de nous contacter, de nous passer un petit coup de fil. Donc tous les coordonnées sont sur internet. Souvent, ce qu'on propose, c'est d'assister à un atelier qui s'appelle Entreprendre en économie sociale et solidaire. C'est 2 heures, soit en webinaire, soit en présentiel, pour faire un peu le point sur ce que c'est et puis faire le point sur les envies de chacun. Et après, on peut vous orienter au mieux. Mais on a affaire à tout type de projet. Enfin, c'est important de le dire, l'économie sociale et solidaire, c'est un lieu autour de l'alimentation, c'est un service qui fait appel à des personnes en situation d'insertion, c'est un tiers-lieu, c'est... Enfin voilà, ça peut prendre des formes ultra diverses. En fait, l'économie sociale et solidaire, elle s'applique à tous les domaines de la vie, donc les projets peuvent concerner tous les domaines de la vie. On n'a pas de limite à partir du moment où on répond à un besoin et qu'on a envie d'y aller collectivement.
C'est pas différent de ce qui se fait entre guillemets dans la vraie vie, c'est juste le faire différemment. Il y a peut-être une nuance, une subtilité.
Ouais, puis peut-être le faire mieux parce que voilà, c'est pas un projet qu'on porte tout seul, c'est un projet à plusieurs et avec l'idée qui pourrait paraître bisounours, mais d'essayer de changer les choses là où on est. Et en fait, se mettre en action, voilà, c'est difficile, mais je crois que ça répond à un besoin de sens que les gens rencontrent de plus en plus dans leur vie professionnelle. Et l'IRESA, il permet aussi de répondre à ça. Et c'est pour ça qu'on accompagne des entrepreneurs tous les ans.
Tu restes avec nous, Catherine. On va conclure tout cet échange qu'on a eu ensemble depuis 18h12, 14 à peu près. Avant tout ça, Sidonie, nouvelle pause, enfin nouvelle pause. On change, on fait un petit détour de sujet.
Tout à fait. On va aller vers Choupi Matoudi.
Bonjour, c'est Lucie de Choupi Matoudi. Ça va vous ? C'est une histoire qui se répète encore et encore. Quelque part en France, une association de protection animale reçoit un message. Bonjour, une chatte est arrivée dans mon jardin il y a quelques jours et j'ai l'impression qu'elle a fait ses petits là dehors, juste derrière mon cabanon. Pouvez-vous faire quelque chose s'il vous plaît ? Je ne peux pas l'accueillir. Et là, généralement, la bénévole qui lit et répond au message a droit à une conclusion au choix. J'ai un chat qui ne supporte pas ses congénères, je suis allergique aux chats, j'ai déjà 3 chats, j'ai un chien qui ne supporte pas les chats, ou, la plus glorieuse des excuses, qui sonne plutôt comme une menace, si rien n'est fait pour eux, je m'en débarrasse demain. Chaque jour, chaque association, où qu'elle soit dans notre beau pays, reçoit des messages comme celui-ci. La réalité de la misère féline, c'est entre autres ça. Une pauvre chatte qui n'est ni stérilisée, ni identifiée, et qui fait portée sur portée dehors. Elle connaît la faim, la peur, les actes de malveillance, les agressions d'autres animaux, les avances violentes de chats mâles non castrés et qui sont prêtes à s'attaquer à ses petits pour avoir accès à elle. La stérilisation des chats est une question de santé publique qui nous concerne tous, a fortiori les propriétaires de chats qui trop souvent prennent la chose à la légère. Pour parler de cette question, j'accueille Priscille de l'association Angevine, mille et une aventures de chats. Bonjour Priscille, comment vas-tu ?
Bonjour, très bien et toi ?
Ça va. Alors, tu es secrétaire de l'association Mille et une aventures de chats. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de vos actions ? Quelles sont vos missions exactement ?
Oui, bien sûr. Du coup, nous avons une asso angevine du coup, qui vient d'avoir 3 ans cette année. Du coup, on a une 30aine de familles d'accueil à peu près, avec environ 60 chats du coup, à l'association. Nos actions, du coup, justement, ça va être, comme tu as dit, la stérilisation du coup, des animaux, l'identification, mais aussi du coup prévenir justement tout ça avec les vaccins, tout ça. Et on cherche une famille d'accueil après, qui prend le chat voilà toute sa vie durant.
D'accord, donc par exemple là, dans le cas de la prise en charge d'une chatte gestante ou d'une chatte avec ses petits, qu'est-ce que ça vous demande en termes de moyens, en termes de mobilisation, de temps, de personnes, comment ça se passe ?
Beaucoup de choses. Déjà, il faut qu'on en discute avec le bureau, donc on sache du coup s'il y a une famille d'accueil de disponible pour accueillir cette minette. Normalement, elles sont avec des chatons. C'est rare qu'on ait une minette vraiment toute seule, souvent elles sont pleines aussi. Donc il faut une famille d'accueil disponible pour un biberonnage par exemple, une grande pièce pour une quarantaine pour accueillir tout le monde. Donc beaucoup de moyens, un moyen financier aussi, parce qu'il faut prévoir une stérilisation, l'identification de la minette, mais aussi de tous ces chatons. Voilà, il faut savoir qu'une minette, ça fait à peu près 3 portées par an.
Oui, c'est énorme.
Exactement. Donc du coup, on est aux alentours de 124 chatons déjà la première année.
Ouais.
Et après, la deuxième année, puis après ça monte jusqu'à 1700 à peu près la troisième année.
Oui, c'est vraiment faramineux. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça va très vite.
Exactement. C'est un gros problème, notamment du coup, pas Angers, mais partout pareil, dans les petits villages de l'alentour. Dès qu'on est dans une campagne, il y a beaucoup, beaucoup de chats, malheureusement, abandonnés, non stérilisés, qui font du coup déporter et puis... Voilà.
Donc du coup, vous, ça vous demande des familles d'accueil, des moyens aussi.
Exactement.
Et c'est vous qui assumez les coûts des stérilisations justement de la maman et puis la mise à l'adoption, etc.
C'est ça. On a un vétérinaire du coup partenaire. On en a un petit peu plusieurs, mais principalement du coup le Grand Maine, le vétérinaire Grand Maine sur Angers. Et du coup, je ne sais pas ce que je voulais dire.
C'est pas grave.
mais
vous avez un vétérinaire partenaire avec
voilà,
qui vous travaillez.
Voilà, c'est ça. Et puis, heureusement, du coup, on a des dons de personnes aussi, que ce soit du coup de l'asso, mais aussi des dons extérieurs, comme des dons de croquettes. Voilà.
D'accord.
On fonctionne qu'avec ça, en fait.
Et qu'est-ce que toi, enfin, qu'est-ce que vous, là, à Mille et Une Aventures de Chat, vous aimeriez voir chez les gens? Pour vous aider, en fait, qu'est-ce que les gens pourraient faire pour vous aider? Quelles sont les différentes choses que n'importe qui, moi, celui qui nous écoute, celle qui nous écoute, pourrait faire?
Bah justement, si tout le monde stérilisait, on aurait déjà un petit peu moins de travail et ça permettra du coup beaucoup de au niveau des chats, en fait, la stérilisation permet en fait plein de choses.
Oui.
On pense notamment à la prolifération des animaux, mais il y a plein d'autres bénéfices de stériliser ou castrer un chat, notamment le partage de maladies, mais aussi tout ce qui va être, par exemple, un chat, ça a besoin de faire beaucoup de distance pour trouver un partenaire.
Oui.
S'il est castré, en fait, il va aller moins loin, donc il y a moins de risques d'accident de voiture, moins de risques qu'il rencontre un animal sauvage. Ou un chien, par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a aussi, du coup, ça va éviter tout ce qui va être les cancers au niveau des tumeurs, les mamelles, les cancers des testicules. Ça va permettre aussi, ben, justement, la prolifération, mais aussi avoir un chat, du coup, beaucoup mieux au niveau dans sa tête.
Oui, plus équilibré. Exactement. Ça évite les bagarres aussi entre mâles qui, quand ils sont à la recherche de femelles, peuvent, bah, comme je disais, s'attaquer autant aux chatons qu'à d'autres mâles aux alentours pour pouvoir avoir accès à la femelle qui est en chaleur. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde, en fait.
Exactement. Ça permet aussi, du coup, comme vous avez dit, la transmission, du coup, notamment du sida du chat, qui est le FIV, et la leucose, qui est le FEVL. Dont on parle pas beaucoup, mais qui sont notamment transmis justement par le sang lié aux bagarres et aux mâles non castrés ou aux femelles.
Oui, donc le FIV, qui est le sida du chat, qui, on le rappelle, n'est pas transmissible à l'homme, c'est simplement une maladie qui se transmet par contact morsure profonde ou relation sexuelle, est une maladie terrible parce que, voilà, malheureusement, il n'y a aucun traitement et aucun vaccin pour cette maladie qui vraiment est très répandue parmi des chats qui vivent dehors, qui sont obligés de subir cette situation. Voilà, donc la stérilisation, c'est vraiment un message important pour chacun parce que ça permet autant de protéger son propre chat de différents dangers que tu as évoqués très justement, que la communauté en général, puisque ça permet de protéger tous les chats en quelque sorte et de limiter cette prolifération qui mine des associations telles que la vôtre, parce que 60 chats, c'est quand même énorme. C'est énorme, ça. Je pense que c'est un beaucoup d'organisation, beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, qui pourraient être consacrés à d'autres choses si déjà les gens stérilisaient, stérilisaient leur chat. Voilà, donc si vous avez un cadeau de Noël à faire à votre chat cette année, pensez-y, une petite stérilisation et ou une identification, pense, c'est très bien aussi, ça permet de retrouver son chat quand il se perd, faut pas hésiter. Alors Priscille, on arrive à la fin de cette chronique, est-ce que tu avais peut-être un message à transmettre de la part de ton association Mille et Une Aventures de chat?
Alors du coup j'ai deux messages. Le premier, du coup, on a beaucoup d'a priori sur notamment la stérilisation, en pensant que le chat va grossir ou en pensant justement que le chat du coup va avoir des problèmes notamment santé ou autre derrière, mais en fait absolument pas. Il y a des croquettes maintenant qui sont spéciales chats stérilisés. Si votre chat garde justement une activité physique adaptée, il ne grossira pas, il n'y aura pas d'autres problèmes derrière. Donc stérilisez vos animaux. Et la deuxième chose, c'est du coup, nous, on est une association du coup qui a 3 ans, on recherche des familles d'accueil, on a besoin aussi de dons. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet, Mille une aventure de chat. Et puis voilà, on a hâte de vous rencontrer.
Oui, vous avez une page Facebook, exactement, une page Instagram. Donc allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut le détour. C'est merci ça. Beaucoup Priscille, merci avec à plaisir. Ton association. Et puis merci de nous avoir écoutés. À bientôt, au revoir.
Et Topette, c'est fini. Ah, c'est toi qui faisais la conclusion, pardon.
Non, Sinanis,
je t'en
grave.
Prie, vas-y.
Non, j'allais dire que c'était encore une chronique fort intéressante et captivante. Mais du coup, Pierre-Benoît, vu que t'étais lancé, je vais te laisser clôturer.
Captivante, c'est ouais. Ça que tu me disais, petit clin d'œil. D'accord, ok. Bon, bah, merci en tout cas, Sidonie, de nous avoir accompagné, animé tout au long de cette émission. Émission que vous pouvez déjà retrouver en podcast, donc les podcasts plus du site internet de la radio, et qui est émission qu'il ne faut pas quitter, puisqu'on n'a pas encore conclu avec notre invitée de la soirée, Catherine Alrault. Je l'ai déjà dit plein de fois, responsable communication et événementiel à l'IRESA, l'Interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. On parlait des galeries Recyclette le 7 décembre, donc dimanche, à la salle Athlétis au Pont de C. Le plus important, Catherine, je crois comprendre, c'est déjà de découvrir sur le site internet si on veut, si on a envie de mieux comprendre et de réserver sa place.
Oui, voilà. Et c'est de 9h à 18h et c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit pour les moins de 18 ans.
Est-ce que tu as eu un stand coup de cœur ou un atelier, une initiation, une sensibilisation coup de cœur sur cette édition particulièrement, toi ?
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les ressourceries. Et, alors, ce qui était incroyable, c'était Envie en Joue l'année dernière avec tout l'électroménager où vraiment les gens étaient au taquet. C'était encore la période des airfryers, donc il y avait pas mal de airfryers qui étaient en revente. Et les gens ont vraiment pu s'équiper en électroménager à petit prix. Donc ça, c'est une chouette option pour Noël, à coût raisonnable.
Et d'un tout petit mot, c'est vrai que je voulais ouvrir le débat, entre guillemets, sur tout ce qu'on voit, les fripes, les concept stores, qui viennent un petit peu pomper dans cette économie sociale, solidaire, circulaire, à très bas coût pour eux, et ensuite, ils font des plus-values exceptionnelles, comme sur des sites marchands de seconde main, prétendus comme ça. Toi, t'en penses quoi ?
La fripe, alors, ça permet quand même de remettre sur le marché de la seconde main. Le modèle économique n'est pas du tout le même, parce que, c'est un entrepreneur, une entreprise, on va dire, de l'économie classique. Et puis, effectivement, pour l'avoir vu, je suis allée il y a quelques semaines à Paris quand j'ai vu les prix des fripes. Voilà, c'est beaucoup plus élevé. Il n'y a pas derrière de l'accompagnement de personnes en insertion, de retour vers l'emploi. Il n'y a pas de bénévoles non plus. Enfin, c'est très différent. Je pense que c'est complémentaire malgré tout. Mais on le voit bien, il y a des friperies qui sont en difficulté, qui ferment, donc voilà, ça reste un modèle qui est pas simple à maintenir.
Et d'un point de vue consommateur, consommatrice, c'est un peu la fausse bonne idée quand on veut consommer éthique, tu penses ?
Je pense que vaut mieux toujours aller dans une friperie que de commander sur Vinted.
D'accord. Et ensuite, le palier suivant, éventuellement, c'est de participer.
Évidemment d'aller dans une ressourcerie. Et il faut le dire, les ressourceries, les acteurs du réemploi, c'est toute l'année. Donc même si vous pouvez pas venir aux galeries Recyclette, il y en a une forcément près de chez vous, un Emmaüs, une écocyclerie. Donc, n'hésitez pas à pousser la porte, ça va bien se passer.
Voilà, découvrez tout cet écosystème qui existe déjà là, à côté de chez nous, sur le territoire, qui est juste pas sur le même filtre. En fait, ouvrez les yeux, puis il y a déjà tout ce qu'il faut sur le territoire. Merci Catherine d'être venue nous parler tout ça dans Topette ce soir. Et puis, on vous invite à aller aux Galeries Recyclette le 7 décembre pour en découvrir davantage. Sidonie, je vais pas te demander si tu vas ou pas, tu fais bien ce que tu veux de tes week-ends, mais est-ce que tu sais quel invité on a demain ou pas ?
Demain, non, je ne sais pas.
Demain, jeudi, non, mais je pensais que tu l'avais noté, c'est pour ça. Non. Je voulais juste pas annoncer quelque chose que tu avais prévu d'annoncer. De toute façon, je l'ai pas non plus. Voilà. Donc rendez-vous demain à 18h10.
C'est mystère, quoi, demain.
Non, l'invité est positionné, mais c'est mystère et pour nous, en fait, je pense. Mais pour vous aussi, maintenant, à partir de 18h10 demain, et puis restez sur le 101.5 FM. À demain, Topette.
Topette.